Donc là, il y a 4-5 serres.
Il y a 4-5 serres, ouais, je les ai construites une par une. La première année, j'en ai monté une petite. Et puis après, pas chaque année, mais j'en reconstruisais une de plus, histoire d'agrandir un peu. Donc indispensable si on veut faire du maraîchage un peu diversifié et puis surtout avoir des légumes toute l'année.
Alors, eh ben, t'as une planche de blettes qui m'a fait tout l'hiver. Là à droite, t'as de l'ail pour faire de l'ail nouveau. Des oignons blancs pour faire en botte au printemps. Là, c'est des carottes et des oignons que j'ai semés à l'automne, qu'on a désherbé la semaine dernière. Là.
Mais dès.
Je m'appelle Jérôme, j'arrive doucement sur la cinquantaine. On est dans les coteaux du Lyonnais, donc à 15 km de Lyon, dans les premiers contreforts où on retrouve la forêt et puis un peu d'agriculture.
Rencontre.
Je suis maraîcher, je cultive des légumes pour vendre ça en direct sur Lyon. Je suis pas du tout issu du milieu agricole, donc je suis rentré sur le tard à 35 ans. Puis voilà, en bio, ça a toujours été évident en fait. Je me suis même jamais posé la question. Je savais qu'il fallait pas utiliser de produits chimiques et de saloperies comme ça. Je vais remettre une autre serre. J'aimerais bien le faire au printemps. Mais là, une serre moins pour faire du légume, là, pour les paniers, tout ça. C'est une serre où j'aurais faire des expériences justement de bananiers, d'agrumes. J'ai vu qu'il y avait des pistachiers qui pouvaient pousser chez nous, sous serre. Essayer de faire une petite serre un peu tropicale comme ça pour faire une petite aventure. Ça fait 2-3 ans là, j'ai planté des oliviers, des figuiers, je me suis dit... Avec le changement climatique, on va pouvoir ramasser des olives à Poyonnais. On a commencé à avoir des changements, particulièrement depuis les 5 dernières années où il y a vachement moins de régularité en fait dans le climat, avec des coups de flotte impressionnants, avec des coups de vent aussi qui sont forts, et puis avec de la chaleur comme on a rarement vu, et puis des sécheresses là. Et là, ça fait 2-3 ans où c'est particulièrement marqué sur l'automne, où on n'a plus ces pluies d'automne qu'on avait systématiquement avant, et qui du coup rapportaient un peu d'humidité dans le sol, après les nuits étant plus longues, ça faisait de la rosée. Et là, ça fait clairement depuis 3, 4, 5 ans, l'arrosage, il faut le gérer jusqu'à mi-octobre, fin octobre, cette année, c'était quasiment jusqu'à mi-novembre, on n'a pas une goutte d'eau. Et donc du coup, on a quasiment doublé notre période d'arrosage. Et puis au niveau de la végétation, eh ben, tout ce qui n'est pas arrosé, c'est sécheresse carabinée. Ça souffre énormément, là, ça fait 4-5 ans. Et ça a vraiment changé. Et puis la chaleur. On a frôlé les 40, je ne sais pas combien de jours dans l'été, mais c'était impressionnant, plus du vent. Du vent qui est régulier aussi, qui souffle, qui sèche. Donc ouais, on voit que ça bouge. On voit que ça bouge. Dans les bois, tout ce qui est les châtaigniers sur les versants sud, là, qui sont en pleine chaleur, avec pas beaucoup de terre, ça crève. On commence systématiquement à voir des chênes un peu qui crèvent aussi sur les bords de route. Pareil, là où il n'y a pas beaucoup de fond, pas beaucoup de terre. Après, on le voit aussi un petit peu sur les petites bestioles. La saison, la chaleur dure plus longtemps, et ben, y a plus de générations, ça se reproduit plus. Donc classiquement, le doryphore sur les pommes de terre, il y a plus de pression. Sur des punaises, des altises, sur le chou, enfin c'est toutes des bestioles qui se développent quand il fait chaud. Et on va se promener au mois de septembre, octobre dans la forêt. D'habitude, ça sentait l'humus. On voyait qu'il y avait plein de petites vies sous les feuilles et tout ça. Maintenant, c'est sec. Donc là, ça fait 5 ans qu'on ramasse plus de champignons, par exemple. Et puis, ce qu'on voit régulièrement aussi, c'est des insectes qui se regroupent en fait. Dès qu'il y a une petite flaque d'eau, une bassine qui traîne avec de l'eau, on retrouve tous les lézards, les coccinelles, toutes les guêpes, les abeilles, les mouches qui sont autour parce que c'est la sécheresse de partout et c'est la grosse soif pour tout le monde en fait. On est à côté des bois ici, donc y a un peu les chevreuils qui passent et c'est vrai que d'année en année, ils sont de moins en moins frileux pour passer les grillages, rentrer dans les parcelles pour se nourrir de haricots verts, de salades, de blettes et compagnie. Cet automne, là, j'en ai surpris dans la parcelle et tout ça, des petits là, qui avaient quelques semaines, quelques mois. Et qui étaient visiblement en très mauvaise santé, quoi. Ils descendent de la forêt, ils ont plus peur. Ils ont peur, mais ils n'ont pas le choix, en fait. Ils crèvent de faim, ils crèvent la soif, il n'y a plus rien à manger dans la forêt, les rivières sont à sec, il n'y a plus rien à boire. Et du coup, ils prennent des risques en descendant dans les parcelles pour se nourrir, quoi. On est étant assez proche de la nature comme ça, on voit que le système, par rapport à la biodiversité, par rapport au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, on voit que ça remet beaucoup de choses en question. Et ces choses-là, c'est ni plus ni moins que l'alimentation des humains, donc c'est quand même assez important. Et toutes ces thèses d'effondrement, c'est assez intéressant parce que ça met en perspective les différentes limites de notre système. Quand on voit les concentrations de produits chimiques, de polluants, de cancérigènes et autres perturbateurs endocriniens, la raréfaction des matières premières, la fin de l'énergie, du pétrole, du gaz et puis du charbon pour d'autres pays, enfin voilà, on sait qu'on va arriver à un moment ou un autre à la fin de cette énergie très bon marché. Il y a aussi cette baisse de biodiversité avec des chiffres impressionnants, des moins 70% d'insectes, des moins 50% sur les oiseaux. Et ça, c'est pareil, on a l'impression qu'il n'y a pas d'impact en fait sur nos écosystèmes pour l'instant, parce qu'on a toujours des pollinisateurs, enfin nous on est dans une zone encore préservée. Donc... Mais voilà, tous les gens qui bossent là-dessus nous expliquent que ça tient jusqu'au moment où ça s'écroule. Et quand ça s'écroule d'un coup. On ne sait pas si ça va être une prolifération de certains prédateurs, une disparition des pollinisateurs ou des choses comme ça, qui remettent complètement en question notre capacité à produire de l'alimentation, quoi. On sait aussi qu'on est dans un système économique qui est ponctué de crises régulières et récurrentes et que ça s'aggrave et que ça va de plus en plus vite et que les bulles sont de plus en plus grosses. Quand on met tous ces crises potentielles bout à bout, on s'aperçoit qu'on est dans un type d'organisation de société qui arrive au bout de sa logique en fait. Jacked up with a body-legged showgirl, sang just like a sparrow. Donc forcément ça va changer. On ne sait pas comment ça va changer, on ne sait pas quand ça va changer, mais ça va forcément changer. Et ces changements-là, s'ils ne sont pas anticipés, ils risquent d'être douloureux. On est tous dépendants des technologies, de la voiture pour la mobilité, on est tous dépendants de plein de choses comme ça, et si tout s'écroule du jour au lendemain, parce qu'on est tous dans une société qui est très complexifiée, très spécialisée, et qu'il suffit qu'on enlève un ou deux maillons à certains endroits pour que ça devienne très très compliqué, quoi. Alors ça paraît loin, ça paraît peu, 3, 4, 5 degrés à la fin du siècle. À savoir qu'on a, je crois qu'on n'est pas loin déjà de 0,8, 0,9, pas loin du 1 degré déjà de réchauffement. On dit que ça continue comme ça, on va se rapprocher d'un modèle plus méditerranéen. Donc pas forcément les mêmes cultures, pas forcément les mêmes variétés, pas forcément la même façon de travailler. Du coup, on essaye justement donc des essais de travailler avec moins de pétrole, moins de tracteurs, avec plus de main-d'œuvre, en faisant des économies d'eau pour se dire essayer d'anticiper des modèles agricoles qui soient résilients à des changements de température, des changements de fourniture en énergie ou en matière première, qui puissent continuer à nous nourrir plus ou moins, quoi. Enfin voilà, il y a tout à changer un petit peu, ses habitudes, et puis essayer d'anticiper, sachant qu'on ne sait pas trop où on va. L'agriculture, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. On plante un arbre, on sait qu'il va produire dans 5 ans, qu'il est là pour 40 ans, 50 ans. Ça demande du temps d'adapter en fait des systèmes agricoles, des variétés. Mais si ça change trop vite, on sera toujours à la course. Donc à un moment, ça ne passera plus, et puis on aura beaucoup de mal à produire, quoi. Sight to see, boys, you wouldn't believe the way she shot those eggs like rockets. She would lift a leg and fire off an egg, and then we'd stuff them in our pockets. Chaque fois qu'on entend parler des politiques, des histoires de réchauffement climatique, alors c'est toujours de la petite mesurette à la marge pour dire tout ça. Et puis régulièrement, on entend dans leurs discours, dans leurs questionnements, une incapacité à comprendre l'ampleur et l'importance du problème. Et en fait, à mon avis, c'est juste pour la simple et bonne raison qu'ils ne peuvent pas remettre en question la science, tels que le scientisme, qui ne peuvent pas remettre la technologie, qui ne peuvent pas remettre la croissance économique, qui ne peuvent pas remettre l'industrie, les gros flux, la mondialisation, comme on dit, et tout ça, ils ne peuvent pas le remettre en question. Donc avec cette grille de lecture, les problèmes écologiques, on a du mal à trouver des solutions. Parce qu'on se dit, chacun faut qu'il fasse des petits gestes citoyens, mais ça ne change rien. Ça change, c'est à la marge. Et en fait, ces gens-là sont hypnotisés en fait par leur grille de lecture et ils sont complètement incapables de prendre les bonnes décisions. Je parle des politiques, je parle aussi évidemment de tous les puissants, les dirigeants de la Terre, hein, donc les financiers, les banques, les assurances, tous les lobbies de l'agroalimentaire, de la pharmaceutique, de la compagnie, de la pétrochimie évidemment. Donc il faudrait vite se débarrasser de ces gens-là en fait. L'humain, depuis des milliers d'années, a l'habitude de gérer des dangers qui sont proches et immédiats. Et que en fait, de se transposer comme ça sur une menace qui est à quelques années, quelques dizaines d'années, c'est abstrait.
Genre les étapes de la prise de conscience. Et il décrit 5 stades.
Pablo Servigne, chercheur.
Stade 1, c'est déni, il se passe rien. Il n'y a pas de problème. Stade 2, c'est il y a un problème. Le pic pétrolier. Non, c'est le nucléaire. Mais non, c'est la finance. Mais non, t'es con, c'est les inégalités. Non, c'est ça, non, c'est ci. Il y a un problème majeur qui focus tout. Et puis à un moment, on passe au stade 3, c'est en fait, non, il y a peut-être 2 ou 3 problèmes. En fait, peut-être que climat et pétrole, c'est lié. Et puis après, on creuse, on se rend compte que tout est lié, en fait, de manière inextricable. Et stade 5, c'est... Il y a un effet, en fait, quand tu te rends compte que tout est lié, c'est « oh ». Enfin, ça casse beaucoup de choses dans l'imaginaire, ça fait des ruptures. Et le stade 5, c'est en fait, le problème, il dépasse l'entendement, il rend fou. Si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90% des gens. Tu vois, 10%, 10%, 10%, 10%. On se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit mais en fait ça va tout changer, le futur, la représentation du monde, mon rapport avec les autres humains, avec les non-humains.
Nous, en tant qu'humains, on est vraiment partie intégrante d'un écosystème. On tire toutes nos ressources d'alimentation, d'eau, et pour se vêtir, enfin tout ce qui fait notre vie, ça découle complètement de la nature. Et le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de ce lien à la nature et qui du coup ont l'impression de pouvoir s'en passer. Parce qu'il y aura toujours des magasins avec à manger, des habits et tout ça. On est des animaux et on tire notre subsistance de ces 15 cm de terre en surface qui sont pleines de vie. Et donc voilà, je pense qu'au niveau politique, ce qu'il faudrait vraiment prendre en compte, c'est le fait que justement cette petite couche de terre qui nous nourrit est en train d'être mise à mal, de s'abîmer, donc de par l'agriculture, mais de par les produits chimiques, de par le CO2 qui change le climat. Enfin, et c'est sûr que s'il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est, si on veut voir un peu une politique à long terme, c'est de prendre en considération ces problèmes et puis de les résoudre, quoi. Les premiers, c'était quand même dans les années 70, le rapport Meadows, là, le Club de Rome.
Le Club de Rome, un groupe de scientifiques et d'économistes, publie en 1972 le rapport Meadows, qui prédit que la croissance matérielle, à laquelle s'ajoute la pollution et l'épuisement des matières premières, conduira à une diminution brutale de la population, accompagnée d'une dégradation des conditions de vie des survivants.
Si dans les années 70, on avait pris acte de leurs conclusions et qu'on avait entamé ce qu'on aurait pu faire à l'époque, une transition écologique, on aurait certainement pu développer un modèle qui soit en tout cas un peu plus soutenable. Il aurait fallu le faire il y a 40 ans et c'était sûrement plus possible. Et maintenant, en fait, il ne faut pas faire une transition écologique. C'est des choses radicales maintenant qu'il faut.
Outside a staggered road that the party. Dragging bags of chains and half-eaten remains of an armadillo carcass. We were out on the run from their pitchforks and guns and their flea-bitten bloodhounds on us.
Pour essayer de prendre à bras le corps cette problématique, on arrive assez vite à se dire qu'il faudrait déjà arrêter de brûler des énergies fossiles. Et puis il faudra arrêter donc l'industrie du plastique, tout ce qui est jetable et tout ça, il faudra arrêter. Grosso modo, si on veut avoir une petite chance de sauver les meubles, il faudrait diviser notre PIB par 10. Et pas dans les 10 ans qui viennent, mais l'année prochaine. Donc voilà, ça donne un petit peu la mesure des choses à faire et de l'impossibilité des choses à faire dans le monde actuel, quoi. Parce que politiquement, même le plus ouvert et le plus progressiste des écolos, diviser le PIB par 10 et mettre en pause une grosse partie de l'industrie, tout le monde dira que c'est pas possible. Alors c'est pas possible dans l'état de conscience et l'état des choses actuellement. C'est tout à fait possible parce que ça va se passer naturellement dans quelques années, de toute manière. À un moment ou un autre, de toute manière, les prix des matières premières vont forcément monter en flèche de par la rareté, de par les conflits. Et puis la nature va se rappeler à nous. La nature est plus forte, plus puissante que notre petite humanité. Donc à un moment ou un autre, de toute manière, on fera pas le poids. On fera pas le poids. Le Club de Rome, là, le rapport Meadows, parlait d'un effondrement entre les années 20 et les années 30, 2020 et 2030. Donc voilà, c'est demain matin, quoi.
On a combien de temps ?
On n'a pas beaucoup de temps.
Pablo Servigne.
Notre vie va complètement changer. C'est pas pour nos enfants, c'est pour nous, quoi. Il faut vivre avec la possibilité que ça ne renaisse pas non plus, ça ne puisse ne pas renaître.
Jacques, la thermodynamique, une fusée qui s'emballe, qu'est-ce qui se passe ?
Jacques Plamont, astrophysicien.
Elle explose.
Est-ce que vous pensez qu'on va exploser ?
Oui. Oui, bien sûr.
Et puis on voit bien en France en ce moment où au niveau institutionnel et tout ça, il y a des choses qui sont en train de craquer en fait. On voit bien tous les mouvements sociaux avec les gilets jaunes et tout ça en ce moment. Il y a une remise en question de la démocratie telle qu'elle est. Enfin de la démocratie, c'est un grand mot, mais il y a une remise en question de la représentativité des institutions. Il y a plein d'hypocrisie, il y a plein de mensonges qui, face aux enjeux tellement importants, vont tomber. Et puis en face, on aura des dirigeants qui ne vont plus avoir de solutions, vont plus avoir de baratin et tout ça. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes là, qu'on est en train de voir est déjà un signe de ça, quoi. Une espèce de légitimité du politique qui a disparu. Les gens, ils en ont assez de faire semblant d'y croire. Et quand on reprend tous les gens qui ont bossé sur les effondrements des anciennes civilisations, ils montrent bien qu'à un moment ou un autre, une surexploitation des ressources naturelles et une augmentation abyssale des inégalités, c'est souvent ce qui fait basculer les civilisations, quoi. Donc nous, on condense tous les paramètres pour que... Et autant des civilisations peuvent mettre des années à se monter, à perdurer, à s'équilibrer, autant on sait que ça peut... En quelques années, quelques dizaines d'années, ça peut basculer, quoi. Donc moi, je m'attends à ça. Après, je suis pas alarmiste, pas défaitiste. Je me dis que, ouais, on sait pas. Peut-être que ça peut durer plus longtemps. Mais dans tous les cas, il vaut mieux en avoir conscience. Il vaut mieux s'y préparer. Préparer à s'en prendre un gros coup derrière la tête, ce qui donne forcément plus de chances de réagir et d'essayer de trouver des solutions, quoi. Plutôt que d'être dans le déni, comme sont beaucoup de gens et beaucoup de politiques, dans le déni, et puis à un moment, Titanic, quoi.
Ciel bleu disparaîtra.
Ciel bleu disparaîtra, ouais.